À mon tour, je vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous et tout particulièrement pour les personnes qui sont de passage, qui sont là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Anne-Marie et donc on peut te souhaiter aussi la bienvenue. Ça fait toujours plaisir de te revoir. Si vous êtes là ce matin, c'est sans doute que Dieu veut s'adresser à vous à travers cette prédication. Sans doute, je pense que je ne me trompe pas en disant cela. Mais si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a quelque chose à vous dire. Commençons par une question et je vais solliciter votre participation. Question de type question de catéchisme. Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? J'attends une réponse et une référence biblique. Alors d'abord la réponse peut-être, Samuel. Ceux qui font la volonté de Dieu. Tu as une référence biblique par rapport à ça? Ouais. Oui, effectivement. Donc ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui finalement seront reçus par le Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Oui, effectivement. C'est ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Autre réponse? Parce que ce n'est pas la seule, en tout cas on peut compléter la réponse aussi. Oui, Nathan. Donc ceux qui placent leur confiance en Jésus, qui croient qu'il est effectivement le chemin qui mène au Père, car nul ne vient au Père sans passer par moi, a dit Jésus dans Jean 14. D'accord. Autre chose encore? Autre réponse? Sinon. Je vais droit au but. Donc, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui peut aller au paradis, en quelque sorte? Jésus dit aussi, en Jean chapitre 3, verset 3, il parle à Nicodème, et justement, cette question est l'objet de leur discussion. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau. De passer par une nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Du coup, je vous pose une autre question qui, en fait, est l'inverse de ce que je viens de demander. Qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu? Alors, peut-être que la question est tellement simple que, du coup, on va dire, bah, c'est le contraire de ce qu'on a dit. Mais qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu? Ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Oui, il y a une référence par rapport à ça? Oui, quelque part. Alors, je vais vous lire un autre passage dans Apocalypse chapitre 21, les versets 8. Le verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Nous lisons ceci: quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc la réponse à la question qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, les pécheurs. Par ce dernier verset que je viens de lire, nous comprenons à quel point le péché sous ses formes multiples peut empêcher l'être humain d'être auprès de Dieu. Jésus dit bien que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire être une nouvelle créature, être radicalement transformé par le Seigneur. Et il y a véritablement, au moment où nous prenons la décision de suivre Jésus, il y a véritablement un abandon, une rupture par rapport à la personne que nous étions avant de connaître le Seigneur. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Comprenez que personne ne naît de nouveau par lui-même. Personne ne devient une nouvelle créature par lui-même. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est Dieu qui fait de nous une nouvelle créature par notre union avec Jésus-Christ. C'est Dieu qui opère par le Saint-Esprit la transformation dans notre vie pour que de pécheurs que nous sommes, nous soyons toujours plus semblable à Christ. Or, alors que nous cheminons avec le Seigneur, nous constatons douloureusement que nous péchons encore, que nos mauvais désirs n'ont pas totalement disparu. Nous avons l'impression qu'au bout du compte, nous ne parvenons pas à changer. Qui a déjà eu cette impression qu'il n'arrive pas à avancer? Oui. Nous avons fait cette expérience que nous ne parvenons pas à changer. Pas aussi vite qu'on le voudrait en tout cas. Et pourtant, nous ne sommes plus les mêmes si nous avons mis notre confiance en Christ. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons reçu l'Évangile. Nous avons cru dans le salut apporté par Jésus-Christ. Nous avons mis notre confiance dans sa mort sur la croix et sa résurrection. Nous avons mis notre confiance dans son amour pour nous. Nous croyons qu'il nous aime, dans sa grâce et dans son pardon, comme nous l'avons chanté. Nous avons découvert en nous de nouveaux désirs. Le désir de plaire à Dieu, le désir d'être dans sa présence, le désir de faire sa volonté, le désir d'obéir à sa parole. Avant de devenir chrétien, ces désirs nous étaient étrangers. Avant de connaître Christ, lorsque nous péchions, au mieux, nous pouvions avoir du regret. Mais maintenant, lorsque nous péchons, nous venons devant le Seigneur pour lui demander pardon. Donc, nous ne sommes pas totalement la même personne. Oui, nous prenons du temps à changer, mais quelque chose a quand même profondément changé en nous. Nous avons conscience que c'est à cause de nos péchés que notre Seigneur Jésus a été cloué sur une croix. Mais la vie chrétienne ne se limite pas à pécher, puis à demander pardon, puis à pécher de nouveau. La vie chrétienne ne se limite pas à ça. Et c'est là que j'en viens au texte de ce matin. Et je vous invite à prendre la parole de Dieu sous les yeux. Donc le texte ne va pas s'afficher, mais vous avez des Bibles à proximité. Dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8. Et pour ceux qui ont la même Bible que moi, c'est à la page 775. L'apôtre Paul donne donc un impératif aux chrétiens de Colosse. Et voici ce qu'il leur dit. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Vous l'entendez comme moi, le chrétien, du fait que son cœur est orienté vers Christ, est appelé à faire mourir ce qui n'a plus sa place dans sa vie, à savoir ses péchés mentionnés dans ces versets. Pour le dire très brièvement, le chrétien est en guerre contre le péché. S'il n'est pas vigilant, s'il se laisse aller, s'il reste inactif, à coup sûr, le péché l'emportera. Or, cela n'est pas envisageable si nous avons bien changé de vie, si nous sommes bien nés de nouveau. Cela n'est pas envisageable. Sinon, à quoi bon devenir une nouvelle créature? Et avant d'en venir à cet impératif, il nous faut regarder le contexte de cette lettre que Paul écrit aux Colossiens. Nous sommes ici au chapitre 3 et donc ça veut dire que l'apôtre Paul a déjà dit d'autres choses auparavant. L'apôtre Paul, dans sa situation où il est emprisonné à cause de sa foi en Jésus-Christ, écrit à ces chrétiens dont il a entendu parler. Il n'a pas pu les rencontrer, il n'est pas le fondateur de cette église, mais il se préoccupe de leur santé spirituelle. Il a entendu parler d'eux. Et bien qu'ils aient reçu l'évangile, eh bien ces chrétiens sont influencés par d'autres enseignements qui circulaient à ce moment-là, qui mettaient en avant la tradition des hommes, toutes sortes de règles à suivre, une sorte de religion alternative qui n'avait plus grand-chose à voir avec la foi chrétienne. Et Paul cherche à montrer à ses destinataires qu'ils n'ont pas besoin de tout ça, car en Christ, ils ont tout. Christ leur suffit. Jésus-Christ nous suffit. pour vivre notre vie chrétienne, notre vie de disciple. Jésus est pleinement suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il a livré sa vie innocente jusqu'à mourir sur la croix. Parce qu'il est désormais ressuscité et vivant. Et en lui, ce que nous lisons au chapitre 1, verset 14, en lui se trouve le pardon de nos péchés. Il n'y a rien d'autre à ajouter pour être pardonné. Et si nous reconnaissons nos péchés, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner à cause de l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les versets que je vais lire à présent décrivent à quel point Christ est tout pour nous. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Paul écrit tout cela aux Colossiens pour qu'ils s'attachent à Jésus-Christ seul. C'est lui le chef suprême de toute la création. Rien ne peut subsister sans lui. C'est lui le chef suprême de l'Église. C'est lui qui est pleinement Dieu. Et c'est grâce à son sacrifice que les Colossiens sont réconciliés avec Dieu. Nous comprenons donc qu'en tant que chrétiens, nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Il nous arrive de chanter « Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. » Est-ce que Christ est vraiment tout pour nous? Au point que nous puissions dire que le reste n'a pas d'importance. Est-ce que Christ est tout pour nous? Est-ce que nous aimons Christ de tout notre cœur? Est-ce qu'il est vraiment notre trésor, notre plus grand bien? Est-ce que ce matin, tu entends qu'il veut être suffisant pour toi? Est-ce que tu entends qu'il veut être ton plus grand bien? Si Christ ne nous suffit pas, nous sommes en train de passer à côté de la vie nouvelle que nous avons reçue. Et pourtant, c'est grâce à lui que nous avons une telle vie en communion avec Dieu. Alors lorsque nous chantons « Christ seul me suffit », jusqu'à quel point c'est vrai pour nous? Ou pour le dire peut-être de manière un peu plus incisive, jusqu'à quel point nous mentons lorsque nous chantons cela? Paul dit encore au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, versets 12 à 13, « Vous avez été, en effet, ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Verset 13, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Avec lui, c'est-à-dire avec Christ. Au moment du baptême, ce que nous avons témoigné de manière visible et de manière publique devant l'Église, ce que nous avons témoigné au moment du baptême, c'est que nous avons placé toute notre confiance en Jésus-Christ et que désormais, eh bien, nous sommes unis à lui, ensevelis et ressuscités avec lui. Ensevelis pour dire en fait mort avec lui. Et comment ? Eh bien, dès lors que nous avons mis notre foi en Christ, nous avons aussi accepté en même temps qu'il soit notre représentant et que sa mort soit comptée comme la nôtre. Si je suis bien uni à Christ, alors ce qu'il a fait est compté comme si je l'avais fait. Bien sûr, c'est Jésus et lui seul qui est mort sur la croix. C'est lui seul qui a subi notre condamnation. Mais le fait d'être uni avec lui implique que c'est comme si, et c'est important que je précise et que j'insiste sur ce comme si, nous étions nous-mêmes morts sur cette croix. Comme si nous avions nous-mêmes reçu cette peine. C'est là ce que nous disons lorsque nous disons que nous sommes morts avec lui. C'est là que nous comprenons pourquoi le chrétien n'est plus condamné. Dès lors que nous saisissons qu'en Christ, c'est comme si nous avions nous-mêmes reçu la condamnation. Donc non seulement mort avec lui, mais aussi ressuscité avec lui. Ça ne s'arrête pas juste au fait d'avoir été condamné avec lui. Mais c'est le fait aussi d'être ressuscité avec lui. Christ est ressuscité et il peut ainsi, sur la base de son sacrifice, nous accorder la vie. Il n'y a plus de condamnation. Tout a déjà été payé. Et nous pouvons commencer donc une nouvelle vie. Notre statut n'est plus celui de condamné à mort, mais celui de déclaré juste. Et tout cela, encore une fois, grâce à Jésus-Christ. Oui, Christ est tout suffisant pour nous. Et Paul dit tout cela aux Colossiens pour qu'ils cessent de suivre des enseignements qui les égarent en leur faisant croire qu'il faut ajouter des règles à tout cela. Il n'y a rien à ajouter. Christ seul nous suffit. Nous n'avons rien à ajouter de nous-mêmes. Il est désormais celui vers qui nous tournons les regards. Et d'où l'exhortation de Paul au début du chapitre 3. Et si vous êtes toujours avec moi, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, » autrement dit, si vous avez obtenu de Christ cette nouvelle vie, « recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Comprenons bien que la vie nouvelle que Jésus-Christ nous accorde n'est pas la vie que je menais jusque-là avec quelques améliorations. Comme s'il s'agissait de la mise à jour d'une application. C'est la même application et normalement en mieux. Non, il ne s'agit pas de cela. La vie nouvelle que nous avons en Christ est un nouveau commencement, avec un but différent de notre vie passée. Pour reprendre l'analogie de l'application, ce n'est pas la même application. C'en est une autre. Ce ne sont pas les mêmes fonctionnalités. Tout est nouveau. Tout est différent. Et souvent, j'aime le répéter, mais Dieu ne fait pas de nous de meilleures personnes. Il fait de nous de nouvelles personnes. Et la nuance est très importante. Ce n'est pas nous en un peu mieux. C'est nous totalement différents. Avant de suivre Christ, nous suivions notre propre volonté, nos penchants naturels qui allaient dans le sens du péché. Et Dieu n'était pas du tout dans nos pensées. Nous ne vivions pas du tout pour lui plaire. Ça, c'était notre vie d'avant. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, un changement d'orientation a eu lieu. Un changement de statut a eu lieu. Alors que j'étais condamné, désormais la vie m'est accordée. C'est en cela que je peux dire que j'ai été sauvé. J'étais condamné et la vie m'a été accordée. Et dans cette nouvelle vie, ce sont les choses d'en haut qui m'intéressent. Dans cette nouvelle vie, ce sont les choses d'en haut qui m'intéressent. Et pourquoi là-haut ? Parce que c'est là que se trouve Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il se trouve, en haut. En tant que chrétien, ce qui est là-haut nous intéresse plus que ce qui est en bas sur la terre. Comment imaginez-vous le ciel où Christ est assis à la droite de Dieu ? Comment imaginez-vous le ciel où Christ est assis à la droite de Dieu ? Un endroit où tout est parfait, pur, saint, où la volonté de Dieu est faite, où les anges obéissent à Dieu. Un endroit où il n'y a pas de rébellion, pas d'homme pécheur qui pêche ouvertement contre Dieu. Étant donné notre état de pécheur, nous comprenons pourquoi nous ne sommes pas en ce moment là où Christ se trouve. Si le ciel est l'endroit où il n'y a pas de pécheur qui pêche ouvertement contre lui, nous comprenons pourquoi nous sommes encore sur cette terre. Mais nous aspirons à être auprès du Seigneur. Et l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Colosse dans ce sens, recherchez, attachez-vous aux réalités d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez ce qui est là-haut. Attachez-vous à Christ, votre plus grand trésor. C'est aussi la parole que Dieu nous adresse ce matin. Frères et sœurs, n'oublions pas en quoi consiste la vie chrétienne. Un attachement entier à Christ. Et donc, si on est attaché à Christ, à tout ce qui est saint, pur et parfait. Et c'est en vue de nous rendre saints que Christ nous a donné une nouvelle vie, un nouveau commencement, un nouveau cœur. Dieu n'a pas le projet, encore une fois, simplement de nous améliorer, mais de faire de nous réellement de nouvelles personnes. Le but qu'il poursuit pour sa gloire, c'est que nous parvenions à la perfection. Ce qui n'a rien à voir, et c'est en cela que nous devenons une nouvelle personne, ce qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes pour l'instant. Mais le projet de Dieu est de faire de nous des êtres parfaits. Parce que Christ est parfait. Est-ce que vous saisissez la différence lorsque j'essaye d'insister sur le fait qu'il ne se contente pas de faire de nous de meilleures personnes, mais en fait, des personnes radicalement différentes de ce que nous sommes encore jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est tellement important de comprendre cela pour pouvoir être encouragé à avancer dans la sanctification. J'ai été un peu long sur le contexte, mais je pense que vous comprenez pourquoi j'insiste autant là-dessus et je vais essayer d'expliciter tout ça en arrivant maintenant à l'exhortation qui nous concerne. Faites mourir le péché. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce sujet en prédication parce qu'en fait, dans la Bible, Dieu nous en parle. Et vous vous souvenez de ma deuxième question au début de mon introduction. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Au début de mon introduction, quelle était la deuxième question que j'ai posée? Oui, Elliot. Qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu? Et nous avons répondu, tous ceux qui pêchent et qui n'éprouvent aucun regret par rapport à leur mode de vie. Si les chrétiens se laissaient totalement aller, qu'ils suivaient les autres qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qui finirait par arriver? Comble de l'horreur, ils finiraient par vivre dans le péché. Leur cœur finirait par être endurci et immanquablement, ils se détourneraient de Dieu. Voilà ce qui arriverait. Ne sous-estimons pas que le péché dans notre vie peut entraîner aussi loin si nous le laissons faire. Or, aux chrétiens de Colosse, Paul donne cet impératif que nous avons lu. Verset 5 du chapitre 3. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Certes, une nouvelle vie a commencé, mais si nous voulons voir un changement dans notre vie, des progrès dans notre transformation, il nous faut nous débarrasser de ce qui est si encombrant dans la vie d'un chrétien, à savoir le péché. Il nous faut nous débarrasser de cela. Puisque désormais nous sommes passés du statut de condamnés à cause de nos péchés à justifiés, eh bien le péché pour lequel notre Seigneur est mort n'a plus sa place dans notre existence. Et très clairement, selon les mots de Paul, il faut le mettre à mort. Il faut le mettre à mort. C'est une action de notre part, une décision à prendre. Pas seulement une seule fois, mais tout au long de notre vie ici-bas. Et si je puis dire, chaque jour de notre vie. Pensez juste à cette semaine qui vient de s'écouler. Pensez aux péchés que vous avez pu commettre contre Dieu et contre votre prochain. À quel moment avez-vous souhaité faire mourir ces péchés? À quel moment avez-vous pris des mesures pour ne plus succomber? Malheureusement, parce que j'en fais aussi l'expérience, nous sommes trop peu vigilants par rapport à ce qui se passe dans notre cœur. À l'égard du péché, nous sommes parfois légers, parfois permissifs. Et sans toujours nous en rendre compte, nous nous laissons corrompre et aveugler par ce qui a l'apparence d'être séduisant et qui nous conduit en réalité loin de Dieu. Chrétiens, il faut nous ressaisir. Nous sommes dans une guerre. Et l'apôtre Pierre le dit à ses destinataires. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. » Je pense que nous avons besoin, une fois de plus, de l'entendre. Nous sommes dans ce monde des résidents temporaires. Notre patrie n'est pas ce monde, mais le royaume de Dieu. Nous ne nous attachons pas à ce monde corrompu, mais aux réalités d'en haut. Et Pierre souligne que les mauvais désirs que nous pouvons encore éprouver font la guerre en nous, à nous, à notre âme. Il y a une guerre. Et puisque nous sommes dans cette guerre spirituelle, il nous faut abattre notre ennemi. Alors comprenez que quand je parle ici d'ennemi, je parle du péché. Il nous faut abattre notre ennemi. Sinon, c'est lui qui nous aura. Considérez la liste des 5 vices mentionnés au verset 5 ici. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Considérez cette liste et dites-vous que ce sont précisément les péchés à abattre, à faire mourir, à faire disparaître. Il ne s'agit même pas de tolérer leur existence dans notre vie. Il s'agit d'y mettre un terme et aussi souvent que ce sera nécessaire. Car ces péchés sont coriaces. Si nous avons reconnu que toutes ces impuretés ne sont pas compatibles avec la vie nouvelle que Jésus nous donne, faisons-les disparaître. Et je ne prétends en aucun cas que c'est chose facile. C'est une lutte constante de toute une vie. Voyez encore à quel point ces péchés sont condamnables. Verset 6, c'est à cause de cela, de ces péchés-là, que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Parce que les hommes continuent de commettre l'immoralité sexuelle, parce qu'ils continuent de céder facilement à leurs mauvais désirs, parce qu'ils n'ont que la soif de posséder, eh bien, la colère de Dieu va effectivement venir et tomber sur eux. Il est vrai que Dieu exécute déjà ses jugements dans ce monde, mais il reste encore une colère à venir. Le jour de sa colère n'est pas encore là. Ce sera un jour de jugement où il mettra un terme à tous ses péchés et où les pécheurs en question, qui ne se seront pas tournés vers Christ, recevront leur condamnation éternelle. Et Paul n'oublie pas de rappeler aux Colossiens que ces péchés en question, qu'ils doivent faire mourir, faisaient partie de leur ancienne vie. Mais désormais, les choses anciennes sont passées. Maintenant qu'ils sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Maintenant, dans leur nouvelle vie en Christ, ces péchés n'ont plus leur place. Pas plus que ceux qui sont mentionnés au verset 8. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. 5 autres péchés à bannir de la vie de tout croyant. Et là aussi, il s'agit de les faire disparaître. Qu'il n'en soit même pas question dans notre vie. Ce sont des péchés qui sont capables, en l'occurrence ici au verset 8, de détruire les relations. Et Paul a en tête, lorsqu'il écrit cela, et par rapport à la suite du texte, il a en tête les relations au sein de l'Église. Celles et ceux qui ont un souci avec la colère, ou avec la méchanceté, ou qui ont une mauvaise maîtrise de leur bouche, savent combien ces péchés sont destructeurs. Se débarrasser de ces péchés est nécessaire, parce que sans cela, le chrétien finira par blesser quelqu'un. Et en l'occurrence, quelqu'un dans l'Église. Autant, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, c'est dangereux pour un chrétien de se séparer de l'Église, autant c'est dangereux pour un chrétien de ne pas se séparer des péchés qui font mal à l'Église. Vous connaissez peut-être cette remarque, ou cet adage, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Si vous cherchez une Église parfaite, et que vous pensez l'avoir trouvée, n'y entrez pas, car elle ne le sera plus. Ça, vous avez déjà entendu ça, hein ? Si vous cherchez une Église parfaite, et que vous pensez l'avoir trouvée, n'y entrez pas, car elle ne le sera plus. Pourquoi ? Parce que vous êtes précisément entré dedans, et donc vous avez corrompu l'Église, qui de toute façon était déjà corrompue. Il n'y a pas sur cette terre d'Église parfaite, parce qu'aucun chrétien n'est parfait. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais ce qui caractérise les chrétiens qui veulent suivre le Seigneur, c'est qu'ils ne veulent pas laisser le péché gagner du terrain facilement. Ils ne veulent pas laisser le péché gagner du terrain facilement dans leur vie. Frères et sœurs, si nous l'avons délaissé, nous devons reprendre le combat et faire mourir les péchés mentionnés ici plutôt que de les tolérer dans notre vie. Et je sais combien les chrétiens d'aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, ont à lutter en particulier contre les péchés sexuels. Les tentations et les incitations dans notre société sont fortes. Et comme nous le lisons dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Paul, pour revenir à Paul, vise précisément ces mauvais désirs qui peuvent rester cachés aux yeux des autres et qui s'expriment par des pratiques honteuses à l'abri des regards. Et il faut le mentionner, le premier fléau dans ce domaine qui affaiblit l'Église d'aujourd'hui, c'est la pornographie. Et en même temps, c'est ce qui conduit, malheureusement, à toutes sortes d'abus dans l'Église. Et force est de constater que nous sommes attirés par ce qui est impur. Et la faute n'est pas aux incitations, mais à ce qui se trouve dans notre cœur. La faute n'est pas à notre société, même si c'est un facteur très important. Mais la faute revient à ce qui se trouve dans notre cœur. Écoutons ce que Jésus dit à ce sujet. Marc chapitre 7, versets 21-23. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Personne ne peut se cacher derrière l'excuse que c'est parce que nous vivons dans ce monde corrompu que nous cédons à la tentation. Les mauvais désirs ne nous sont pas extérieurs. Jésus dénonce ces mêmes vices que la liste qui se trouve dans la lettre aux Colossiens pour dire qu'ils sortent directement du cœur de l'homme. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi nous devons être actifs. Et ce qui doit nous convaincre de continuer à lutter contre de tels désirs contraires à la pensée de Dieu, c'est le fait que nous avons reçu du Seigneur une vie nouvelle. Qu'est-ce que ces péchés qui ont conduit mon Seigneur à la croix ont à faire dans ma vie nouvelle ? Quel rapport entre Christ et l'impureté ? Aucun. Le fait d'appartenir à Christ devrait nous faire réagir face à ces péchés qui sont si communs dans notre monde. Et notre première réaction est donc de mettre à mort ces péchés, d'abord en nous. Il ne s'agit pas de regarder à l'autre, regardons d'abord à soi, de mettre à mort ces péchés en nous. Et je vais maintenant, si vous êtes toujours avec moi, préciser de quelle manière. Vous êtes toujours avec moi ? Nous passons donc à l'application. Je pense que c'est une vraie question à se poser. Comment faire disparaître le péché, ses mauvais désirs, ses mauvaises pensées ? Parce que nous avons plutôt l'impression qu'ils reviennent toujours à la charge. Parce que de par sa nature, en fait, le péché ne nous lâche pas si facilement. Et quelqu'un disait qu'il ne renonce jamais. Vous vous rendez compte de cela ? Le péché ne renonce jamais. Gardons cette image en tête d'un ennemi qui ne renonce jamais. C'est le méchant de l'histoire que vous croyez avoir abattu et qui se relève encore. Il ne renonce jamais. D'abord, nous pouvons dire que pour les chrétiens, c'est possible de résister à la tentation. C'est possible de ne pas pécher quand nous sommes incités à le faire. Dieu ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Il nous a donné son Esprit Saint. Et je veux rappeler ce que Paul dit dans une autre lettre, la lettre adressée aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 8, verset 13, un verset que ceux qui étaient au week-end d'église connaissent. Romains chapitre 8, verset 13. « Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » Paul nous dit comment faire mourir les actes mauvais par l'Esprit de Dieu. Comment faire mourir ce qui se trouve dans mon propre cœur ? Par l'Esprit de Dieu, capable de changer mon cœur. Aucun coach de vie n'y parviendra. Et moi-même, je n'y arrive pas. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu dans ma vie pour lutter contre le péché. Tant que je ne saisis pas cela, je connaîtrai encore de nombreuses défaites. Seul le Saint-Esprit peut, a la puissance de me transformer et de me faire ressembler à Jésus. Et si je ne compte que sur mon intelligence, sur ma force de caractère ou sur ma seule détermination, je vais rapidement m'épuiser et être découragé par les résultats. Dans cette guerre sans merci, j'ai besoin d'un allié de taille. J'ai besoin d'une aide surnaturelle. C'est l'espoir que nous avons. L'espoir que Dieu veut nous secourir dans cette lutte, dans notre lutte. Car sa volonté est de nous débarrasser du péché, de tout ce qui est impur. Alors que la guerre fait rage, est-ce que tu as cet allié à tes côtés ? Comptes-tu sur le Saint-Esprit pour ne pas succomber ? Et cela demande de notre part de rechercher cette aide. Il y a quand même cette démarche de notre part. Il faut la rechercher, cette aide, au lieu de penser que nous sommes assez forts. Et retenons bien cela. Seuls, nous ne serons jamais assez forts face au péché. Seuls, nous ne serons jamais assez forts face au péché. Jamais. Sans les efforts et notamment l'effort d'aller chercher de l'aide. Sans les efforts, tout comme sans le Saint-Esprit, il est impossible de gagner le combat contre le péché. Et comment est-ce que je cherche de l'aide, l'aide dont j'ai besoin? D'abord par la prière. Premièrement, par la prière. Jésus nous a enseigné une prière dont l'une des requêtes est « ne nous expose pas à la tentation », autrement dit, ne nous permet pas que nous cédions, mais délivre-nous du mal. Vous connaissez cette prière, vous connaissez cette requête. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et je l'avoue, parce que je dois encore faire un effort là-dessus, je dois faire de cette requête inspirée de Dieu ma prière quotidienne. Cette demande est quotidienne, parce qu'il n'y a pas un seul jour où je ne risque pas de tomber. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que nous prions cela tous les jours? Et je vous l'ai dit, je ne le fais pas moi-même. Quel que soit le péché contre lequel nous luttons, l'immoralité sexuelle, la soif de posséder, la colère, la méchanceté, les propos grossiers, nous avons besoin de demander au Dieu Tout-Puissant de nous délivrer du mal. Par la prière, nous exprimons que nous dépendons du Saint-Esprit pour mener ce combat, qu'il est notre allié dans ce combat. Sans la prière, si nous ne prions jamais à ce sujet-là, c'est une bataille perdue d'avance. Pensons à ces fois où nous sommes tombés, où nous avons succombé, où nous avons péché. Et si seulement nous avions prié avant? Et si seulement nous avions prié pendant la tentation? Seuls, nous ne sommes jamais assez forts face au péché. Comment est-ce que je recherche l'aide dont j'ai besoin? Deuxièmement, auprès de mes frères et sœurs. Cette semaine, dans la lettre d'info, vous avez reçu les versets suivants. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Dans ces versets que je viens de lire, vous remarquez qu'il est aussi question du péché. Et comment faire face à ce péché dans ce combat qui est le nôtre à tous? Soyons solidaires. Encourageons-nous mutuellement. Chaque jour, si c'est possible. Vous entendez ce verset qui dit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Parce que chaque jour, il y a un combat. L'encouragement, comme je l'ai dit aussi dimanche passé, passe par la prière les uns avec les autres. Comment nous pouvons nous encourager les uns les autres? Eh bien aussi en priant les uns avec les autres. Et si tu es en lutte contre un péché tenace dans ta vie que tu veux faire mourir, tourne-toi vers un frère ou une sœur de confiance, chez qui tu reconnais une maturité et qui pourrait t'encourager et auprès de qui tu pourrais rendre des comptes. Et j'encourage à ce que, bien sûr, un frère cherche un soutien auprès d'un frère et une sœur auprès d'une sœur. Pour des raisons évidentes, nous ne voulons pas ajouter d'autres tentations à nos luttes déjà actuelles. Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, chaque jour s'il le faut, à pouvoir résister au mal. Comment est-ce que je recherche l'aide dont j'ai besoin? Eh bien, troisièmement, dans la parole de Dieu. Nous lisons dans le psaume 119, versets 9 et 11. D'abord le verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. » Verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur. » Et vous connaissez peut-être la suite. « Afin de ne pas pécher contre toi. » Comment faire disparaître les mauvais désirs dans mon cœur, en laissant l'Esprit de Dieu agir à travers sa parole. Ce sont les paroles de Dieu qui devraient remplir mon cœur. C'est cela aussi, s'attacher aux réalités d'en haut. C'est dans cette parole que nous trouvons la vérité, car Dieu dit toujours la vérité. Et c'est dans cette parole qu'il est question de Christ. Et j'en reviens à Christ, celui qui nous suffit, mon Sauveur. C'est dans cette parole que je trouve la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour moi, lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, et qu'ensuite Dieu l'a ressuscité pour me faire éviter la condamnation. C'est dans cette parole que je me rends compte que Dieu m'aime et qu'il veut me transformer et qu'il veut me débarrasser du péché. C'est dans cette parole que je vois que je ne suis pas livré à moi-même, mais que grâce à l'Esprit de Dieu que j'ai reçu, j'ai la capacité de ne pas céder à la tentation. Frères et sœurs, écoutons l'Esprit qui nous incite à prendre la Bible. Si vous avez envie de lire la Bible, c'est que sans doute il y a une incitation de la part de l'Esprit. Écoutons l'Esprit qui nous incite à prendre la Bible, à lire et à relire ce que Dieu veut et à obéir à ce que Dieu ordonne. Comment faire mourir les actes mauvais ? Eh bien, précisément en faisant le contraire, en faisant ce qui est bien devant Dieu, en faisant la volonté de Dieu. C'est là-dessus que nous devons nous focaliser. Ce n'est pas en regardant juste notre ennemi et tout le temps de se dire, voilà, où est-ce qu'il est ? Allons dans le sens que Dieu nous demande d'aller, c'est-à-dire dans le sens du bien, dans le sens de sa justice, dans le sens de ce qu'il nous commande. Cherchons à faire sa volonté. Et tout cela, nous le lisons dans sa parole. Et c'est vrai, cela demande encore une fois nos efforts, et cela demande aussi de compter sur le Saint-Esprit. Alors, j'ai conscience que j'ai été très long, ou relativement long, mais si vous deviez retenir une chose dans tout ce que j'ai dit, quelle serait cette chose ? Je vous laisse y réfléchir. Si vous devez, voilà, parmi tout le flot de paroles que j'ai pu prononcer, mais surtout par rapport à ce que Dieu vous dit ce matin, qu'est-ce que vous retenez ? Deuxièmement, prenez une décision. Prenez une décision. Nous sommes en guerre. S'il y a un péché à abattre, choisissez de le faire mourir en comptant sur le Saint-Esprit, en allant dans sa direction, en cherchant son aide, en priant, en demandant le soutien des frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu, en laissant cette parole nous travailler, nous remplir la tête, les pensées. Donc, retenez une chose, prenez une décision. Et enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est commencer à vivre comme Dieu le demande, avec l'aide indispensable du Saint-Esprit. Et c'est un sujet extrêmement important. Et donc, si jamais l'un d'entre vous a besoin d'en parler, je me tiens à votre disposition, parce qu'il y aurait encore tellement de choses à dire. Et surtout, parce que vous ne devez pas rester seul dans ce combat. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui éclaire notre sentier, qui nous aide à effectivement savoir où diriger nos pas. Et précisément, eh bien, tu nous demandes de diriger nos pas loin du péché. Tu nous demandes, Seigneur, de pouvoir faire mourir ces péchés qui sont si coriaces dans notre vie. Et peut-être depuis très longtemps, eh bien, nous avons cultivé de mauvaises habitudes. Tu connais tout cela, Seigneur. Et ce matin, tout particulièrement, nous venons devant toi pour te demander pardon. Pour te demander, Seigneur, ton aide parce que nous ne pouvons pas lutter seuls, parce que nous ne pouvons pas changer tout seuls. Parce que comme tu nous l'as promis dans ta parole, comme tu nous le dis, eh bien c'est avec ton aide, avec la puissance de ton esprit, que tout peut être transformé et que nous pouvons être changés de gloire en gloire. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, la bataille est perdue. Alors accorde à notre Église de pouvoir vivre ce soutien mutuel, cet encouragement mutuel. Oui, nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Nous pouvons nous appuyer sur nos frères et sœurs qui pourront aussi prier pour nous. Oui, merci pour les frères et sœurs que tu as placés dans l'Église pour cela. Et merci de continuellement nous encourager à lutter jusqu'au bout, mais toujours avec ta présence et ton secours. Merci Seigneur parce que oui, c'est toi qui auras le dernier mot sur le péché dans notre vie. C'est toi qui nous en débarrassera entièrement. Et dans cette espérance-là, Seigneur, nous continuons de marcher en gardant les yeux fixés sur Christ, celui qui nous suffit. Et c'est en son nom que nous te prions ensemble. Amen.